Voilà, nous continuons notre étude sur Moïse dans Exode au chapitre 11, nombre 11 plutôt. Nombre 11, on en était au verset 29. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ?» Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Donc on avait expliqué un exploit encore de Moïse, celui d'accepter de ne pas être seul, loin du Saint-Esprit. Donc il était d'accord que d'autres personnes et l'onction du Saint-Esprit fonctionne avec la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est un exploit, parce qu'aujourd'hui, les gens, dès qu'ils sont loin, ils ont reçu quelque chose de Dieu, ils veulent être seuls, ils veulent être spéciaux, ils ne veulent pas être plusieurs. Et là, on voit Moïse qui se comporte vraiment différemment des gens qu'on connaît aujourd'hui. Il veut que s'il faut remplir tout esprit, tout homme de l'Esprit de Dieu, lui, il est d'accord avec cela. Il ne cherche pas à être spécial, comme beaucoup cherchent à avoir un don spécial, à avoir quelque chose de spécial, à être mis à part d'une manière égoïste. Non, il faut accepter que Dieu fasse sa volonté dans la vie de tous les humains et que tous les humains soient glorieux par là. Grâce divine. Ça, c'est extraordinaire de voir quelqu'un qui a une situation spéciale accepter que cette situation ne soit plus spéciale. Donc, rares sont de telles personnes. Et Moïse a encore manifesté qu'il était digne de recevoir l'autorité qu'on lui a confiée par le Seigneur. Au verset 31, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre, donc 1 mètre environ. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. 10 homères, c'est environ 2,5 mètres. En avait environ 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp, comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée. La colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Donc Kibroth Hattaava, qui veut dire sépulcre de la convoitise. De Kibroth Hattaava, le peuple partit pour Hatséroth, et il s'arrêta à Hatséroth. Alors, première question, le Seigneur donne les cailles, donne la viande, comme il avait promis. Il a dit, bon, là où c'est écrit 2 mètres, on peut lire aussi jusqu'à 2 mètres, parce que jusqu'à 1 mètre plutôt. On peut lire ça de deux manières. On peut considérer que ce soit que les cailles volaient jusqu'à un niveau de 1 mètre, de sorte que tout le monde pouvait prendre, ou alors que ça soit une montagne, une hauteur de 2 mètres, c'est quand même, ça fait beaucoup, hein, puisqu'après il faut comment stocker, puisqu'après on dit que chacun en avait pour 2,5 homères, donc 10 homères, donc ça fait à peu près le baptistère, 2 mètres cubes, c'est un peu plus grand que le baptistère. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que les cailles volaient jusqu'au niveau 1 mètre et les gens pouvaient prendre facilement, donc rien qu'en en étendant la main. Et il y en avait tellement. comme il avait promis, la viande, mais en même temps, il frappe. Ceux qui avaient murmuré, il les frappe et il meurt. Maintenant, quelle interprétation on peut, quel commentaire on peut faire du fait que il donne la viande, ensuite il frappe. Voilà, donc c'est quel commentaire on peut faire par rapport à cela. Oui, Mylène.
Peut-être que le Seigneur aurait espéré qu'il se repente lorsque Dieu a dit qu'il leur enverrait de la caille. Peut-être qu'il s'attendait à ce qu'ils demandent pardon et puis ils ne l'ont pas fait.
Oui, c'est possible. Hein, c'est possible.
Parce que c'est vrai que là, comme ils disent, la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée. Donc ils en avaient tellement, mais on dirait qu'ils voulaient, ils voulaient, ils voulaient sans... l'insatisfaction, en fait.
Ah non, là, ça veut dire tout simplement que juste au moment où il voulait s'apprêter à manger, là, c'est ce que ça veut dire. Donc, la chair était dans les dents, mais ils n'avaient pas encore mâché que le jugement... En fait, ça, c'est un truc chronologique. Donc, d'accord. On nous explique à quel moment le jugement s'est abattu. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont mis la viande dans la bouche, c'est là que le jugement s'abat. Voilà, c'est pourquoi on cherche. Bon.
Est-ce qu'ils n'ont même pas rendu grâce à Dieu ? Est-ce qu'ils ont...
Là, ça rejoint un peu ce que Mylène a dit. Oui. Donc, quelque part, peut-être qu'il fallait qu'ils se repentent. C'est une possibilité. Oui.
Ouais, moi aussi, j'ai rejoint Mylène parce qu'une fois qu'ils voient une multitude de cailles comme ça, déjà, ils voient que c'est un miracle encore une fois. De qu'est-ce qu'eux demandent. Il n'y a pas de reconnaissance, peut-être. Leur état de cœur n'est peut-être même pas reconnaissant ou repentant ou quoi que ce soit. Et puis, ils ne se remettent pas en question. Ils veulent juste ses cailles et c'est tout. Et puis, le fait de c'est pas écrit, mais on peut imaginer si les frappes, c'est parce qu'ils n'apprennent pas une leçon. Ils font juste prendre les oiseaux, puis c'est tout.
Voilà, donc on retrouve toujours l'histoire de la repentance. Il n'y a pas eu repentance. Oui. Ouais. Autre possibilité.
Moi, je pense que peut-être Dieu, effectivement, donc ils ont voulu les cailles, donc Dieu répond à leur demande, comme lorsqu'ils ont voulu un roi, Dieu a donné un roi. Mais il y a la conséquence, le jugement qui vient quand même, parce qu'ils ont eu la convoitise. Voilà.
Voilà, donc Dieu prouve qu'il peut donner la viande. Et il dit, bon, je vous donne la viande, je prouve que je suis Dieu, je suis tout-puissant, mais toutefois, votre convoitise est sanctionnée quand même. Donc, comme il n'y a pas eu repentance, comme les autres ont souligné, donc cette convoitise est sanctionnée quand même. Dieu montre sa toute-puissance. Il dit, bon, mais vous avez parlé comme si j'étais incapable. Avant de vous frapper, je vous donne d'abord. Parce que s'il frappe avant... Les gens peuvent se dire, ah, il nous frappe alors qu'il a été incapable de nous donner la viande. On peut faire plusieurs commentaires. Hein. Donc, il y a toujours des gens pour se moquer de Dieu, dire, ah bon, il a la force de frapper, mais il n'a pas la force de créer la viande. Voilà. Mais Dieu dit, non, non, j'ai la force de créer la viande. Je vous crée la viande, mais je ne suis pas d'accord avec la convoitise. La convoitise, ce n'est pas bon et je vous frappe à cause de cela. Et il y a aussi un autre élément, c'est quoi ? C'est que Dieu montre aussi par là que ce n'est pas ce qu'on possède qui va faire notre bonheur. Parce que là, ils avaient les cailles, mais ils sont morts. Donc après tout, ce qui peut faire notre bonheur, c'est Dieu. Donc on peut avoir des millions et mourir. À quoi auraient servi ces millions ? Donc ça nous rappelle la parabole de Luc 12. De cet homme qui avait entassé des récoltes dans des greniers. Il s'est dit, maintenant, je peux me réjouir, mon âme, réjouis-toi. Et il est écrit que le soir même, Dieu l'a rappelé à lui. Donc, il est mort, le soir même. Alors, à quoi servent tout ce qu'il avait amassé à quoi allait servir tout ça? Donc, ça nous montre aussi quelque part que ce n'est pas les biens qu'on possède qui nous donne la vie, mais c'est Dieu qui donne la vie et le bonheur, parce que lui peut te donner et le souffle pour vivre, en même temps te donner l'appétit, en même temps te donner la viande. Mais si tu fais de la viande ton trésor, ton succès, il te montre que tu peux avoir la viande et mourir. À quoi te sert cette viande finalement? Donc il y a ces enseignements là tirés, le manque de repentance. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu leur doit tout. Donc eux, ils sont bons, c'est Dieu qui a des choses à se reprocher. Et Dieu est obligé de leur donner tout. Ils font des caprices, ils font des bêtises. Donc ils se lamentent seulement et Dieu doit donner. Et Dieu dit non, c'est moi qui suis Dieu. Vous devez vous soumettre à moi. Je vous donne pour prouver, mais vous ne vous êtes pas repenti. Là, le jugement tombe sur vous. Oui ?
Oui, normalement, un tel jugement, ça devrait produire quand même la crainte de Dieu. Or, on voit maintenant des serviteurs qui se moquent ouvertement de Dieu et... Enfin, on pourrait se dire, mais comment Dieu l'a frappé facilement et puis maintenant, il laisse tout faire quelque part?
Non, je ne pense pas que Dieu frappe facilement. On va lire d'autres textes où Dieu a été patient. Vous aviez lu, on a lu, même tout le long de cette histoire de Moïse, le fait qu'il y a eu autrefois des murmures. Dieu a voulu frapper, mais n'a pas frappé. Il a changé, il s'est calmé, et ça ne s'est pas fait tout de suite. Vous savez qu'avant de sortir d'Égypte, il y avait encore des polémiques autour de Dieu. Dieu envoie Moïse, ils font des polémiques, Dieu n'avait pas frappé. Il fait le premier miracle, la première plaie, et ça devient dur pour eux puisque Pharaon augmente le travail qu'ils avaient à faire. Ils se sont plaints contre Dieu, mais Dieu n'a pas frappé. Donc je pense que c'est nous qui avons l'impression que ça a été rapide pour eux. Ça n'a pas été si rapide que cela. Dieu a toujours fait usage de patience. Et maintenant, nous qui avons un certain âge, nous savons que Dieu frappe aussi dans notre époque. Parce que quelqu'un qui voit tout simplement, lors d'un meeting, Benny Hinn dire n'importe quoi et puis ne pas être frappé, mais c'est peut-être quelqu'un là, cette personne-là ne suit pas toutes les informations. Mais essayez de suivre un homme que vous estimez être un mauvais, un faux, vous allez vous rendre compte que Dieu frappe aussi. Parce que dernièrement, Benny Hinn, il arrive en Angleterre, on lui refuse d'entrer en Angleterre. Comment toi, tu es un Américain, on te refuse d'entrer en Angleterre? On lui demande le papier de son église qu'il envoie en Angleterre. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il n'avait pas de papier, parce que c'est lui le chef, qui allait lui faire le papier? À la frontière, on a dit, nous voulons le papier. Mais pourtant, le séminaire était déjà prévu, les dates étaient déjà là. Alors il s'est dit, il va passer par la frontière terrestre. Donc il reprend son avion, il revient en France, et il prend une voiture pour passer par la frontière terrestre. On le bloque. Donc, c'est des choses inimaginables. Donc, quelqu'un qui est américain, l'Angleterre, c'est comme si c'était chez lui. Mais on le bloque. Donc là, on voit le jugement de Dieu. Dieu juge, Dieu frappe. Mais quand on ne suit pas quelqu'un pendant longtemps, on ne peut pas savoir. Et quand on ne suit pas les gens de près, on ne le sait pas. Jusqu'aujourd'hui, il continue à frapper.
Oui, d'accord, mais là, c'est quand même directement la mort, quoi. Enfin... Il n'y a plus de retour en arrière.
Donc
quoi,
vous
c'est
voulez
terminé.
La mort maintenant.
Non, mais des fois ça fait mal, quoi, les gens qui se moquent complètement de Dieu ouvertement et puis bah, tu as l'impression qu'il n'y a rien du tout qui suit.
Si, je pense que Dieu, c'est un grand pédagogue. S'il frappait de la mort comme on l'attend là et que finalement les gens ne lui obéissent que par peur, Dieu n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Dieu veut qu'on lui obéisse par amour et parce qu'on comprend qui il est. Voilà, c'est important aussi. Voilà, c'est important aussi. Mais il frappe. Ça, on est certain. Vous savez, pour nous, parce que pour toi, tu trouves que la mort, c'est dur. Mais quelqu'un qui est mort, c'est fini. Mais qu'on te refuse d'entrer en Angleterre, pour nous, c'est pas grave. C'est grave pour quelqu'un d'une grande personnalité comme ça. Nous, on connaît des pasteurs à qui il ne fallait pas dire non. Mais Dieu va permettre qu'on va l'humilier, on va lui dire non en public comme il faut. Donc pour nous, c'est peut-être rien. On lui a dit non, mais pour lui, c'est grave. Vous imaginez des gens comme Hitler, tu ne peux pas lui dire non. Pour nous, qu'on lui dise non, nous, on est habitués à ce qu'on nous dise non. Mais il y a des gens pour qui, rien que lui dire non, c'est comme si tu l'as blessé. Donc Dieu les frappe aussi. Donc parfois ils sont humiliés, ils arrivent quelque part, on leur dit non. Et pour eux, c'est comme s'ils étaient morts. Donc je crois que c'est peut-être qu'on croit que la mort, c'est la frappe suprême. Non, l'humiliation, c'est beaucoup plus fort que la mort. Oui.
Je pense aussi que cette génération, du temps de Moïse, c'était quand même peut-être la seule génération qui a vu des miracles extraordinaires. Ils ont été libérés d'esclavage, sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu les Égyptiens périr dans la mer Rouge, ils ont vu tellement de choses. Et ils finissent par se murmurer contre Dieu, faire un veau d'or, se détourner. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution. La punition de Dieu, le jugement de Dieu, il est proportionnel à ce que Dieu a donné aussi.
Effectivement. Donc ça aussi, c'est un élément très important. D'ailleurs, Dieu va le dire dans la suite. Quand on va lire cette histoire dans la suite, il dit ce que tu dis là. Effectivement, en fonction de ce que Dieu a donné, dont le Seigneur aussi, Jésus le dit, à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Donc en fonction de ce que Dieu a fait comme exploit, eh bien, le jugement sera conséquent aussi. Oui.
Est-ce que ça peut être un piège d'être habitué à voir la gloire de Dieu, enfin la manifestation ou des miracles? Est-ce que ça peut être un piège dans le sens où on s'habitue et ça ne produit plus rien?
Ah oui, oui. Oui, on s'habitue et ça ne nous impressionne plus.
Voilà.
Normalement, ça aurait dû nous impressionner pour nous amener la crainte de Dieu. Mais quand on s'en habitue, ça ne nous impressionne plus. Et là, c'est ce qu'on avait dit le dimanche, que quand on s'habitue à venir dans les réunions de prière, les réunions de prière ne sont pas des moments sérieux où on entre en contact avec Dieu, mais c'est des moments religieux où on se dit, bon, j'ai été à l'église, c'est fini. Donc on est en train d'aller vers l'apostasie, vers l'abandon de la foi, parce que la rencontre avec Dieu n'est plus quelque chose d'extraordinaire. C'est dangereux. Voilà. Donc nous continuons. Chapitre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue? Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie soit rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth et il y campa dans le désert de Paran. » Voilà, voilà une succession d'actes de rébellion. Et ça montre qu'il y avait vraiment le vent de rébellion contre Dieu dans l'atmosphère. Personnellement, je crois qu'ils commençaient à se fatiguer de Dieu, quoi. Parce qu'en Égypte, ils étaient juste les descendants d'Abraham, d'Isaac. Mais là, Moïse a ramené la loi, ça commence à fatiguer. Oui, Géraldine ?
Deux petites questions, en fait. Madian, c'était en Éthiopie, alors ?
Ah non ?
Non, parce que c'est pas Séphora, alors, qui parle
non,
là.
Non, c'est pas Séphora, là.
D'accord, je suivais plus. Ben Séphora, elle est devenue quoi ?
Pardon ?
Séphora, elle était devenue quoi ? Parce qu'après, on n'en parle plus du tout, ni de ses enfants. Ah oui, bon, ça, enfin, oui. Et sinon, Aaron, pourquoi lui, il n'a pas été puni ? Pourquoi il n'y a eu que sa femme qui a été...
Non, c'est pas sa femme, sa sœur.
Sa sœur, pardon. Pourquoi... Oui, je suis perdue maintenant entre les femmes. Pourquoi il n'y a que sa sœur qui a eu la lèpre ? Et lui, au début, c'est quand même marqué que les deux, ils discutaient de ça, quoi.
Peut-être pour qu'il ait eu beaucoup plus mal.
D'accord.
Parce que parfois, quand nous-mêmes, on est frappés, on a moins mal que quand c'est notre fils ou notre sœur qui est frappé, quoi. On a beaucoup plus mal. Voilà. Donc là, nous sommes dans un exemple de rébellion toujours, en apparence vis-à-vis d'un homme, mais en réalité vis-à-vis de Dieu. Alors, le problème, c'était quoi ? Moïse a pris une femme... Cushite, une femme éthiopienne, donc une non-hébreu. Et oui.
Ils ont la loi ici, là, à ce moment ici.
Alors, je pense que la loi de ne pas épouser une étrangère n'était pas encore donnée. Hein. Parce qu'on voit cette apparition de la loi, l'apparition de cette loi en Deutéronome 7. Voilà, bon, donc je ne pense pas que c'était déjà donné.
Mais comme c'était comme sous-entendu.
C'était comme sous-entendu quelque part parce que c'était un peuple à part.
Parce que la première femme non plus, elle n'était pas.
Bon, pardon?
La première épouse aussi de Moïse.
Oui, là c'est normal puisque Moïse venait de quitter l'Égypte et est parti. Mais il y a l'histoire de Balaam qu'on Bon, ça même, ça vient après ça. Je ne crois pas qu'il y a une loi explicite qui est donnée de ne pas prendre une étrangère, mais c'était une loi implicite. C'était une loi naturelle, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, le problème, c'est quoi ? Moïse a pris une femme qui n'est pas hébreu, qui n'est pas israélite. Et quelle est la conséquence ? Marie et Aaron contestent. Mais ils contestent quoi maintenant, les deux-là ? Qu'est-ce qu'ils contestent ? Qu'est-ce qu'ils contestent ? On lève la main si on veut répondre, on donne le micro. Qu'est-ce qu'ils contestent ? Oui.
Ils contestent l'autorité spirituelle de Moïse,
voilà,
comme guide.
Donc ils contestent l'autorité spirituelle. Alors que le problème... C'est le mariage, mais la contestation porte sur l'autorité spirituelle. Donc on voit ce que nous, on appelle aujourd'hui prétexte. Donc en réalité, le problème, c'était l'autorité spirituelle de Moïse qui commençait à les fatiguer, mais ils utilisent le mariage comme prétexte. Et puisque, est-ce que ce n'est qu'à Moïse que Dieu parle ? Mais non, mais là, le problème n'est pas le fait de parler. Le problème, c'est qu'il a pris une femme éthiopienne. Donc, s'il y a discussion, qu'on fasse autour de cette affaire-là de la femme éthiopienne. Mais la discussion ne se fait pas autour de la femme éthiopienne, ça va autre part. Mais est-ce que c'est vraiment Moïse le seul qui peut nous parler ici ? Donc, est-ce qu'il est vraiment le seul prophète ? Et c'est cette contestation-là qui a lieu. Donc, en réalité, le vrai problème, c'était que Aaron et Marie voulaient le pouvoir. Donc, le pouvoir est un grand problème au milieu des humains. Avant, d'arriver à ce problème, nous avions parlé de la convoitise. La convoitise qui a amené les gens à se rebeller vis-à-vis de Dieu en disant on est fatigué de ne manger, de ne plus manger de la viande et du poisson. Là, ce n'est plus la convoitise des biens, mais c'est la convoitise du pouvoir. Ça fait partie des problèmes, des grands problèmes des humains. Convoitise des biens, on en a parlé longuement la fois passée, où les gens n'aiment pas se contenter de ce qu'ils ont. Ils pensent toujours que ce que les autres ont est meilleur. C'est ça la convoitise. On pense toujours que l'autre a mieux. Ce que l'autre a, c'est le plus beau, c'est le plus fort. La situation de l'autre est meilleure que la mienne. Ça, c'est la convoitise. On n'arrive pas à se contenter et à aimer ce que Dieu nous donne. C'est la convoitise. On veut à tout prix autre chose. Il y a ça. Il y a deuxièmement, c'est prendre le poste de l'autre. Voilà. D'abord, c'est le bien. Là, maintenant, c'est la position d'autorité de l'autre. Donc, il y a un problème chez les humains. C'est toujours vouloir prendre la position d'autorité de quelqu'un. Or, il y a un grand chef qui a établi la structure, qui a établi la hiérarchie. Et donc, si vraiment on est obéissant à ce grand chef, on sera obéissant à l'ordre que lui, il a établi. Mais l'homme a du mal, en réalité, à obéir au grand chef. Et cela se manifeste par son refus des petits chefs. Voilà, c'est ça la réalité. Et je crois que il commençait vraiment à se fatiguer de la loi divine. Parce qu'avant, ils étaient descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais sans loi. Ils pouvaient être juste fiers d'être descendants de Jacob. Mais Moïse ramène la loi. Il faut vivre de telle manière, il faut respecter telle chose, il faut faire ceci. Et là, je crois que ça commençait à les fatiguer, mais quand ça commence à fatiguer ainsi, on va chercher des boucs émissaires. Et c'était Moïse, le bouc émissaire. Et ils ont profité de ce qu'on appelle un prétexte. Voilà. Moïse avait pris une femme éthiopienne. Allez, on attaque Moïse. Oui. C'est ça, ce que moi je pense, qui commençait à se passer. La fatigue par rapport à Dieu. Oui.
C'est comme les gens maintenant qui quittent leur assemblée... parfois pour retourner dans le monde, pour vivre, ou pour aller dans d'autres assemblées qui n'imposent pas trop...
Oui, où on est libre de faire ce qu'on veut, quoi. On est libre de faire ce qu'on veut, voilà.
Moi, j'avais une question aussi par rapport au verset 11. Je sais pas, je me dis, mais c'est possible qu'ils étaient possédés, ce peuple, ou pas?
Oui, c'est possible. Pourquoi?
Non, mais parce que c'est trop, quoi. Mais moi, moi, cette histoire-là, ça, à chaque fois, je suis dérangé. Mais là, je me dis qu'ils ont quand même la pensée de dire qu'ils ont fait une folie, quoi. Mais je me dis, mais ils savaient bien. Enfin, j'ai l'impression qu'ils essayaient de, bon, certainement, oui, comme tu dis, de prendre le pouvoir, mais de pousser à bout. Enfin, c'est comme si on a l'impression qu'ils veulent mourir pour de vrai, quoi.
Ils veulent mourir pour de vrai.
Parce qu'ils savent très bien que c'est Dieu, quoi. Ils savent très bien que c'est Dieu. Donc quand ils ont critiqué, quand ils ont murmuré, ils savaient très bien que Dieu allait se fâcher.
Hier, j'ai suivi l'histoire du grand casse du siècle passé d'un train à Londres. Oui, mais le monsieur, après, quand on les a attrapés, dit le problème des voleurs, c'est que quand ils volent, ils oublient qu'un jour, on risque de les attraper. Donc il dit, comment on peut voler si on sait qu'on va se faire attraper? Donc, en quelque sorte, quand l'homme agit, il oublie certains détails. Il est pris par sa passion, par sa convoitise. Parce que d'ailleurs, il disait, mais si on savait qu'on allait se faire attraper, on ne volerait pas. Donc, quelque part, quand on essaie de faire un casse, c'est qu'on s'attend à ne pas se faire attraper. Mais le problème, c'est que c'est quand tu as fait le casse, que tu te rends compte, parce qu'il devait cacher des millions, à l'époque, c'était beaucoup de billets, mais tu vois, vous allez cacher des sacs comme ça, comment ? Ils se sont dit, mais c'est là qu'on se réveille. Je crois que là, il y a la convoitise. Mais tiens, Moïse, il s'est permis de prendre une étrangère. Oh, et en plus, donc, voilà, tout le temps, Dieu passe par lui. Pourtant, nous aussi, on est élevés. Ce qui est grave, ce sont ses frères de sang. Ce n'est même pas de... C'est des frères de sang. C'est pour vous montrer à quel point l'homme aime le pouvoir. Il est prêt à combattre son propre frère de sang. C'est un problème. Donc c'est pour nous réveiller là-dessus. Oui.
Oui, moi, j'aimerais soulever deux points. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs qui maudissent. Là, on voit que ce n'est pas Moïse qui a maudit lui-même, c'est Dieu lui-même qui a frappé. Donc, ce n'est pas Moïse qui l'a fait. Et deuxièmement, des fois, on peut avoir des problèmes pour rien. Quand ce n'est pas, je ne sais pas, le fait que Moïse avait une femme étrangère, c'était un péché. Mais quand ce n'est pas clairement comme ça un péché, et on ne sait pas quelle relation le serviteur a avec Dieu, éviter d'avoir des problèmes, de critiquer, dire oui, lui, c'est un serviteur de Dieu, voilà, il fait ça, il fait ci, qu'est-ce que c'est Dieu qui lui a d'aller à tel endroit, tout ça là.
Alors que la chose n'est pas clairement dite comme péché.
Péché, voilà, donc c'est dangereux de.
Parce qu'on a vu qu'il parlait avec un voyou. Ah, mais comment il peut parler avec un voyou? Mais ce n'est pas interdit dans la Bible. Mais on peut faire des élucubrations comme ça, des discours sans fondement. Mais quand on en parle, en réalité, on est des humains, on est dérangé peut-être parce qu'on a l'impression, je crois qu'ils devaient avoir l'impression que Moïse était privilégié par Dieu. Ah, donc eux, comme ils étaient aussi élevés, mais non, mais on est tous forts, on est tous... Pourquoi Dieu passe que par Moïse? Voilà quoi. Et ça les gênait, c'est la convoitise, c'est la jalousie. Et là, ça n'attend qu'un prétexte. Et parfois, nous-mêmes, nous devons nous poser des questions, mais comment nous avons pu soupçonner alors que, voilà, la chose qu'on... Le problème qui s'est posé, ce n'est même pas ça qui est devenu l'objet du débat, ça a été l'autorité spirituelle de Moïse. Ça montre que ce n'était pas l'histoire du mariage qui était un problème, c'était qu'un prétexte donc, pour amener vers autre chose. En réalité, ils avaient d'autres questionnements dans leur cœur. Pourquoi Moïse toujours lui? Pourquoi toujours Moïse? Et ça peut naître. Parmi nous, on a l'impression que quelqu'un est toujours plus béni que nous et on commence à nourrir des choses dans le cœur. Et un jour, ça va sortir parce qu'on a vu un prétexte et on saute sur le prétexte et on commence à dire autre chose. C'est ça que, en réalité, il y a des questions cachées qu'on aurait dû exprimer. Normalement, s'ils avaient le courage, ils seraient venus voir dire à Moïse ou dire à Dieu, mais comment tu ne passes que par Moïse? Comment que tu... Voilà, être honnête. Mais il y a des choses, on sait que dans le cœur, c'est honteux. On ne veut pas avouer ça et on garde ça dans le cœur. Puis un jour, dès qu'il y a un prétexte où on peut sembler avoir raison, parce que l'homme veut avoir raison quand il parle. Donc le prétexte allait leur donner une position de force, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Oui.
Donc, du coup, je pense qu'il faut s'interroger aussi sur le fait qu'on juge trop vite les gens, parce qu'ils peuvent pécher, comme le roi David aussi avait péché. Mais il s'est repenti. Donc, des fois, moi, quand j'entends certains chrétiens, moi, ça m'est arrivé aussi de juger trop vite et il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Parce que.
Ben oui, oui, oui. Mais surtout quand l'élément n'est pas clairement un péché aussi. Là, dans le cas où nous sommes, vous n'avez pas remarqué quelque chose dans la réponse de Dieu? Il y a quelque chose dans la réponse de Dieu qu'on peut remarquer. C'est que Dieu ne répond pas sur l'histoire du mariage. Il ne s'occupe même pas de ça. Parce que Dieu connaissait le vrai problème. Il savait que leur problème, ce n'était pas l'histoire de mariage. L'histoire de mariage n'a été qu'un prétexte. Dieu ne s'occupe pas de ça. Il savait. Et souvent, dans nos relations, il y a des prétextes. Donc, quelqu'un est déjà dérangé bien avant par autre chose. Mais il lui manque un prétexte. Le prétexte nous aide à avoir raison, à paraître avoir raison. Parce qu'on ne veut pas non plus dire clairement, bon, mais comment se fait-il que c'est lui toujours qui a les plus belles voitures? Bon, on sait que les gens vont dire, je suis jaloux. Alors, donc, comme on ne peut pas le dire... Mais on reste ça reste dans notre cœur. Un jour, on va voir un faux problème. Allez, on se saisit du prétexte pour attaquer la personne. Mais en réalité, notre problème, c'était autre chose. Et c'est ce qui s'est passé là. Ils en avaient marre d'avoir l'impression que Moïse était privilégié. Voilà, ils en avaient marre de cela. Alors, ils se sont saisis du prétexte de le mariage avec l'Éthiopienne. Mais et Dieu, lui, ne répond même pas à ça. Donc, il ne répond pas. Donc, c'est pour dire que je comprends, c'est un prétexte. Je ne réponds même pas à ça. Oui.
Pasteur, moi, je voulais savoir, est-ce que les enfants d'Israël, à l'époque, ils connaissaient déjà Dieu, ils connaissaient les capacités de Dieu, comment...
Mais oui,
le
on l'a dit
Dieu...
là, ils ont vu la mer se diviser en deux, ils ont vu les plaies, le Nil se transformer en sang, tout ça.
D'accord, mais est-ce qu'ils avaient compris que Dieu, il donne à qui il veut, il fait comme il veut? Parce que là, il conteste en fait l'autorité de Moïse, mais Dieu, il fait comme il veut en fait, il donne à qui il veut.
Effectivement. Mais en plus, ça te gêne en quoi si quelqu'un a 50 gratte-ciel, mais toi, tu as ta maison, tu es tranquille.
Tout à fait.
Tu bois de l'eau, tu manges. Ça te gêne en quoi si Lance Armstrong remporte cette Tour de France? C'est son problème. Toi, tu vois là, toi, remporte le tour de ta rue, je ne sais pas quoi. Voilà, donc c'est... ça gêne en quoi si l'autre est millionnaire? Est-ce que toi, tu es affamé? Et puis, on a affaire à Dieu Tout-Puissant qui peut donner à tous parce que sa puissance est infinie. Donc, ce n'est pas comme si Dieu n'avait que 1000. On s'est dit, mais s'il a donné 950 à Jean, donc nous, on est 60, il nous reste que 50 à partager. Non, mais Dieu, c'est infini. Donc, s'il donne 900 à Jean, il peut me donner 900 millions. Et s'il me donne 900 millions, il peut te donner 10 milliards. Donc, il est infini. Donc, on ne peut pas jalouser les gens comme si Dieu devenait maintenant bloqué, puisqu'il a trop donné à un tel, il ne peut plus me donner. Non, ça c'est... Et deuxièmement, ce qu'il nous a déjà donné devrait nous contenter et nous suffire, quoi. Oui.
Donc, comme ils connaissaient déjà, en fait, la nature de Dieu, est-ce que ça veut dire que c'est leur cœur qui n'était pas disposé, en fait, à accepter cette nature-là?
Ah oui, ils n'étaient pas disposés. L'homme n'est pas disposé à ça. Leur cœur n'était pas disposé. Et Aaron s'est rendu compte qu'ils ont agi en insensé. En insensé, parce que eux, c'est leur frère quand même. Ils profitaient de son élévation. Aaron a profité de l'élévation de Moïse. Marie, Myriam aussi, la même chose. Elle a profité de ça. Mais malgré ça, on veut toujours plus. On veut toujours plus. Et on oublie le passé. Ils oublient tout ce que Moïse a enduré comme épreuve pour en arriver là. Ils oublient. On oublie le passé et on voit juste notre propre convoitise être plus que l'autre. Oui, il y a Trésor qui lève la main depuis longtemps.
Oui, je voulais aussi soulever un point par rapport au comportement de Moïse. Par rapport à ce passage-là, les réactions de sa sœur et son frère, on remarque bien aussi la confiance que Moïse a vis-à-vis de son Dieu. Il a pris son temps dans sa patience de ne pas réagir, mais il a fait confiance en Dieu. Et Dieu lui-même... apporter la justice sur l'affaire, au lieu de prendre l'autorité, de dire, bon, je suis le chef ou quoi que ce soit, mais il a laissé à Dieu de rendre justice.
Aujourd'hui, c'est moi qui ai la vision.
Ouais. Donc, il a laissé à Dieu de faire justice, non de dire, voilà, c'est moi qui ai la vision, c'est moi qui dois faire ça, ça, ça. Mais il a pris son temps dans sa patience à faire confiance en Dieu, que Dieu fait, qu'on puisse faire sa justice.
Effectivement, sinon, tu vas créer des systèmes d'espionnage dans l'Église, tout ça. Et parce que tu fais tout comme... Non, on n'est pas obligé. Là, c'est écrit, il y a une phrase qui est éminente. C'est écrit, et Dieu entendit. Hein. C'est ce qui est écrit là. Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Donc, ça prouve que Dieu entend tout ce qui se passe. Il voit tout. Je me souviens, à un moment, on nous avait volé du matériel ici, au centre. Donc, moi, je disais, je connais le voleur, je crois que le voleur à l'époque devait trembler quand je disais ça. Or, je ne connaissais pas moi, je me disais, puisque Dieu connaît, donc moi aussi je connais en quelque sorte, parce que tôt ou tard, on le saura, même au ciel, on saura que c'était un tel voleur. Bon, espérons qu'il sera avec nous au paradis, on va le calmer, mais sinon, malheureusement, il sera en enfer. Mais toujours est-il que, puisque Dieu existe, Dieu voit tout. Donc on t'a volé quelque chose, Dieu connaît le voleur. Donc on ne doit pas paniquer comme si Dieu est sourd ou aveugle. Il voit, il entend. On doit faire confiance en Dieu. Au lieu de mettre des espions, commencer à savoir qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens font, non, ce n'est pas bon. On doit faire confiance au fait que Dieu entend tout et il voit tout. Et c'est le cas là, et l'Éternel l'entendit. Nous continuons. Et Moïse, encore toujours homme d'amour et de paix, il demande à Dieu de guérir sa sœur. Il dit, et là, Aaron, en bon acteur, il appelle maintenant Moïse mon Seigneur, quoi. Voilà. De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons, au verset 11, commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus capables. Donc voilà, là, il change d'attitude radicalement. Il venait de contester, directement il change. Il appelle Seigneur. Donc il a compris. Espérons qu'il avait compris. Et Moïse cria à l'Éternel, verset 13, en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Mais malgré la prière de Moïse, l'Éternel, on a puni quand même Marie d'aller 7 jours à l'extérieur, enfermée. Et quand les 7 jours sont finis, c'est là qu'ils sont, ils ont pris la route. Voilà, chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms pour la tribu de Ruben, Shammua, fils de Zakur. Et on arrive à au verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Shéchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi de grenades et de figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient été explorer le pays, Josué fils de Noun et Caleb fils de Jephunné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Voilà une situation délicate. Donc les espions partent en faire le tour de Canaan, la terre promise, et ils viennent avec une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne, c'est que c'est vraiment comme promis, comme annoncé, le pays où coule le lait et le miel, les fruits sont gros, sont très bons. Le pays est beau, le pays est bien, mais malheureusement, mauvaise nouvelle, c'est habité par des géants, par des costauds. Et il disait, le pays dévore les habitants qui vont là-bas, et qui sont là-bas, et il disait aussi que nous étions à leurs yeux, à nos yeux, et à leurs yeux comme des sauterelles. Est-ce que eux, ils ont, première observation, mais est-ce que eux, ils se sont, comment ils ont fait pour savoir que les autres les prenaient pour des sauterelles? Donc, ils ont établi un commentaire hyper négatif dans le but de décourager le peuple, le Dieu. Donc, il fallait vraiment noircir le danger, noircir le tableau de la difficulté afin qu'une décision soit prise de ne pas y aller. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils craignaient, ces gens-là? Ils craignaient quoi? Mais c'est écrit, hein, ils craignaient quoi? Ils craignaient la mort. Donc ils se disaient, si on va là-bas, on va nous tuer. Ils craignaient la mort. Donc entre la promesse de Dieu, la gloire de Dieu et la vie humaine, ils ont préféré quoi? La vie humaine. Parce que la gloire de Dieu les faisait passer par la conquête de Canaan. Ils ont dit, aïe, on risque de mourir. On préfère être privé de la gloire de Dieu, mais vivre. Ça nous rappelle le Nouveau Testament. Hein? Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. En général, la gloire de Dieu nous fait passer par le chemin de la mort. La mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort, c'est-à-dire que toi, avec ton intelligence et ton raisonnement, tu n'existes plus. C'est la pensée de Dieu qui existe en toi. Mais ça, ça te fait passer pour quelqu'un de bête. Parce que ce n'est plus toi qui commandes, mais c'est Dieu qui commande. Les gens qui sont autour de toi vont considérer que tu as un problème. Tu n'existes plus. Mais c'est ça la mort. Et eux, ils étaient face à une mort physique. Non. Là-bas, il y a la gloire de Dieu. Le pays est beau, il est extraordinaire. C'est comme nous les chrétiens. Il y a tant de promesses liées au fait de suivre Dieu. Tant de promesses extraordinaires. Vous serez les premiers, non les derniers. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais ça nous fait passer par le chemin de la mort. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas accepter ça. C'est ça qui fait la différence entre deux formes de chrétiens. Il y en a certains qui ont accepté la mort, d'autres qui ne l'ont pas encore acceptée. On peut dire que c'est des sympathisants. Et le problème est celui-là. Donc ces gens-là viennent dire « nous refusons la mort ». Nous refusons la mort. En quelque sorte, ils veulent dire quoi ? Dieu s'est trompé. On n'est pas capable de vaincre nos ennemis. Dieu s'est trompé. Alors, s'il y a des choses qui énervent Dieu, c'est ça. Qu'on dise qu'il s'est trompé, qu'on dise qu'il a mal calculé, qu'on dise qu'il ne voit pas. Par notre façon de faire, c'est comme si lui ne voit pas. Par notre façon de faire, c'est comme si lui n'entend pas. Par notre façon de faire, c'est comme si lui n'est pas capable de résoudre les choses. Le Seigneur n'aime pas cela. C'est contester réellement qu'il est Dieu. Et là, eux, ils venaient dire, Moïse et son Dieu, ils se sont trompés. Et Josué et Caleb ont voulu défendre, mais ils ont été menacés d'être lapidés. Mais ce n'est pas lapidé par des étrangers, lapidé par leurs propres frères. C'est pour nous dire que le combat dans la vie chrétienne, c'est les gens qui se prétendent chrétiens qui vont nous combattre le plus. Parce qu'ils vont nous faire, ils vont nous dire la chose suivante. Vous vous croyez plus chrétien que nous? Et ce sont ce genre de personnes qui vont combattre beaucoup plus les vrais chrétiens. Les païens, on sait dès le départ que c'est des ils sont comme adversaires. Mais ce qui est plus difficile, c'est ceux qui se prétendent chrétiens. Vaut mieux encore aller évangéliser dans un pays qui n'est pas encore atteint par l'évangile, on sait au moins à qui on a affaire, qu'aller dans un pays, travailler dans un pays où les gens se disent chrétiens, mais alors qu'ils ne le sont pas encore. Et ceux-là, ils peuvent t'empoisonner tranquillement. Moi, bien aimé, j'aurais beaucoup plus peur d'aller travailler au Congo-Kinshasa que d'aller travailler en Arabie Saoudite. Parce que je sais qu'en Arabie Saoudite, c'est interdit, tout ça, je sais comment je vais m'y prendre pour annoncer quand même l'évangile dans la prudence, tout ce qu'on veut. Mais tu vas dans un pays où les gens se prétendent chrétiens, mais alors qu'ils ne le sont pas, et ils s'empoisonnent entre eux, pasteurs, machin, tout que les pasteurs se promènent avec des pots de miel quand ils sont invités à gauche et à droite. C'est beaucoup plus risqué, parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mais tout le monde a l'étiquette des chrétiens. C'est encore plus dangereux. Donc je préfère un pays où c'est déjà clair, ah, là c'est un pays islamique, bon j'y vais, je sais à quoi m'attendre. Mais tu vas dans un pays où tout le monde se dit chrétien, mais alors qu'ils ne le sont pas. Ah ben là, c'est encore plus dangereux, parce que là, l'empoisonnement à tour de bras, les escroqueries, quelqu'un qui peut te prier à genoux pendant 3 heures du temps, mais le matin, il vole tranquillement. Donc, je préfère encore travailler dans des pays clairement où on sait que c'est des païens, c'est des non-chrétiens, c'est des anti-chrétiens. Là, au moins, c'est clair. Mais aller dans des pays où les gens se prétendent chrétiens, mais en réalité, c'est des escrocs, là, c'est très difficile. C'est très difficile. Et là, on voit qui est-ce qui veut lapider les Caleb et Josué. C'est les propres frères, les gens qui sont censés plutôt être de son camp, de leur camp. C'est eux. Parce qu'ils n'ont pas saisi Dieu, ils deviennent plus dangereux même que les géants là. Parce que Caleb et Josué n'ont pas peur des géants. Ils sont prêts à aller les combattre. Mais là, qu'est-ce qui, surprise, qui est-ce qui veut les combattre? C'est leur propre frère, ils veulent les lapider. Heureusement, il y a l'intervention de Dieu. Mais on peut déjà souligner la patience de Moïse d'écouter ces gens-là parler, dire n'importe quoi. Donc il est là, ils écoutent. ils noircissent le tableau, ils écoutent, ils écoutent. Ils n'interrompent pas, ils laissent parler. C'est vraiment avoir une grande confiance en l'intervention divine. Donc il sait que Dieu va intervenir. Ce n'est pas son affaire. Donc nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu en formation. N'oublions pas d'imiter Moïse. Il savait que Dieu allait intervenir. Dieu allait trancher l'affaire. Lui n'est qu'un instrument. Ce n'est pas lui le chef. C'est Dieu qui est le chef. Et là, il nous est dit, toute l'assemblée parlait de les lapider. Verset 10 de 14. Lorsque la gloire de l'Éternel a apparu sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Donc, comme il avait dit Bertrand, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Donc, malgré tout ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore pour qu'il croie en moi? Verset 12, je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Une fois de plus, quelle belle intercession de Moïse. Dieu dit à Moïse, je les détruis tous, mais avec toi je commence encore une nouvelle génération. Moïse dit non. Non, non, parce que ce n'est pas cohérent avec le début. Tous les gens ont vu tes exploits, tous les gens te craignent parce que tu es dans ce peuple. Maintenant, si tu détruis ce peuple, les gens diront, mais il a échoué. Mais toi, tu n'es pas quelqu'un qui puisse échouer. Moïse savait parler à Dieu. Et réponse du Seigneur, verset 20, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Voilà l'intercesseur. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants la posséderont, le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert et dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Noun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert. Ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jephunné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Voilà le jugement de Dieu à cause de la rébellion, parce que c'était la rébellion. Vous savez, dans une prophétie, il y a parfois deux parties. La première partie s'est accomplie. Mais pourquoi ne pas croire que la deuxième va s'accomplir? Dieu avait dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que ça ne s'est pas accompli? Ça s'est accompli. Mais Dieu avait dit aussi, je vous le donne. Vous voyez bien que la première est là, mais vous doutez sur la deuxième. C'est vraiment des gens qui tenaient tellement leur vie que la gloire de Dieu n'était plus importante pour eux, n'était pas importante pour eux. Ils tenaient beaucoup, beaucoup à leur vie. Et ils ont méprisé le Seigneur, ils ont murmuré, ils se sont rebellés contre lui, ils ont monté une mutinerie contre lui. Ça ressemble un peu à la mutinerie du ciel, la mutinerie des anges avec le diable. C'est la même mutinerie. Donc, il y a des gens qui influencent les autres et ils se mutinent contre Dieu. Et c'est ce qui se passe là. Les 10 espions, eh bien, ils influencent tout le peuple qui se rebelle contre Dieu. Dieu dit, bon, je vais accomplir ce que vous avez dit. Vous avez dit que vos cadavres, vous aurez préféré retourner en Égypte et mourir. Eh bien, vous allez mourir dans le désert. Comme vous préférez mourir, vous allez mourir dans le désert. Et oui.
Oui, pasteur, c'est un petit peu pour rejoindre tout à l'heure la sœur Nelly quand elle disait que, mais pourtant les enfants d'Israël, ils ont vu les miracles, enfin ils voyaient comment Dieu y parlait. Et je me suis toujours aussi posé la question en se disant, mais est-ce que eux dans leur époque ils avaient le choix de choisir Dieu dans leur vie, ou en fait c'était quelque chose de naturel, croire en Dieu, enfin les miracles de Dieu c'était quelque chose de naturel et que ça devait se faire quoi. Mais est-ce que eux dans leur cœur ils avaient conscience réellement que bah, Dieu c'est tout puissant, c'est lui qui leur donne la vie, le souffle de vie, tout ça quoi. Parce que avec tout ça on se demande. Bon, nous, avec des petits bobos, parfois on se dit aïe aïe aïe, on a peur quoi. Mais eux c'est vraiment des choses. Enfin, je veux dire, les écailles qui tombent du ciel, enfin, c'est des choses visibles, tellement visibles qu'on se pose la question quand même, où était leur cœur, quoi?
Oui, donc leur cœur était rebelle, leur cœur était rebelle.
Et... Mais est-ce qu'ils croyaient à l'existence réelle de Dieu? C'est ça ma question, en fait.
Oui, mais ils voulaient faire de Dieu leur serviteur à eux. Voilà. En le faisant chanter, on n'est pas content, il n'y a pas la viande. Comme aujourd'hui, certains prient. Saint-Esprit, touche-t-elle. Tu donnes des ordres au Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ceci. Mais non. Donc ce n'est pas notre serviteur à qui on va lui donner des ordres. Donc il y en a aujourd'hui qui disent, mais Seigneur, tu as écrit dans ta parole ceci. Je veux voir ça. Donc c'est des juristes chrétiens. Donc ils veulent obliger Dieu à faire quelque chose parce qu'il a écrit. C'est la même chose qu'on voit là. C'est des gens qui disent, ah oui, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Hein. Il n'a qu'à nous faciliter la tâche. Hein. Voilà. C'est cette façon-là de dire, Voilà, il nous a sortis d'Égypte, il n'a qu'à nous faciliter la tâche. Mais il nous a fait de nous des chrétiens, il n'a qu'à nous faciliter la tâche. On ne veut pas des preuves, on ne veut pas des difficultés, on ne veut pas ceci. Ah oui, mais comment, pasteur, c'est écrit que nous serons les premiers, non les derniers? Voilà, on se retrouve sans argent. Donc, c'est toujours des chantages. C'est la même chose, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas changé.
Oui, je sais, mais là, on voit que dans le peuple, il n'y en a même pas un qui peut dire aux autres, mais...
Si, Josué et Caleb.
Oui, enfin, on voit ceux qui sont dans la direction, ceux qui sont dans les directives, mais je veux dire, dans le peuple même, on ne voit même pas un qui est un peu attaché au Seigneur, quoi.
Malheureusement, large est le chemin qui mène à la perdition. Les gens aiment le nombre. Là où il y a le nombre, ils se sentent à l'aise. Ils croient que le nombre les sauvera. Ça fait partie de... On a déjà fait une étude biblique sur le nombre en expliquant que le nombre était une forme de Dieu. Parce que les gens s'attachent au nombre comme si c'était comme une puissance. Et ça, c'est une grande erreur. On aime souvent aller du côté du plus grand nombre. Et il y a beaucoup plus de païens, on préfère aller du côté des païens. Voilà, et c'est ça l'erreur que beaucoup commettent, et le nombre les perdra. Et le Seigneur donc décide qu'ils mourront, et que finalement, c'est les enfants qui vont en profiter, parce que les moins de 20 ans, c'est eux qui arriveront, parce qu'eux, ils n'ont pas eu à participer à tout ça, et surtout... ils voulaient confondre les gens qui ont dit « Mais nos enfants vont devenir une proie là-bas. » Non, je vais vous montrer qu'ils ne seront pas une proie. Eux, ils y entreront. C'est vous qui n'entrerez pas. Et c'est pour nous dire, bien-aimés, Dieu est patient, mais il y a une limite. Et là, il cite un nombre là, il dit 10 fois. 10 fois, ils m'ont tenté. 10 fois, ils m'ont... verset 22, hein. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Donc il y a un nombre qu'ils ont atteint qui était le nombre limite. Donc ça nous montre que tôt ou tard, le jugement de Dieu s'abattra. Un jour ou l'autre. Oui.
Des fois, on aurait tendance à dire, est-ce que c'est qu'ils ne comprennent pas ou est-ce que c'est la méchanceté? Là, on voit bien que Dieu, il est clair, hein? C'est vraiment de la méchanceté, il leur dit. Mais c'est vrai, des fois, il y a tellement de gens qui sont à côté de la vérité que des fois, moi, j'aurais tendance à dire, ça ne se peut pas qu'ils soient tous méchants, là, et il doit y avoir du monde là-dedans
s'il y a beaucoup de méchants. Parce que comment expliquer que quelqu'un refuse Dieu? Moi, je vais jusqu'à ce niveau-là. Je dis, bon, maintenant, si quelqu'un nous dit qu'il refuse Dieu parce qu'il estime que... en fait, il ne refuse pas Dieu. Il fuit Dieu. Moi, je comprends que quelqu'un dise, je fuis Dieu parce que je me trouve sale. Je fuis Dieu parce que je ne pense pas être capable d'honorer Dieu, de vivre la sainteté. Je comprends. Mais quelqu'un tranquillement comme ça dire non à Dieu, là moi je dis c'est un sorcier, c'est un dangereux, c'est un méchant. Donc parce que il ne s'est pas donné la vie, il s'est retrouvé dans le monde, il s'est retrouvé. Comment il peut dire que Dieu n'existe pas alors que voilà, il s'est retrouvé lui-même et créé des théories, nous sommes descendants du singe, tout ça, ça c'est vraiment de la méchanceté. Donc je crois que tout humain devait dire, je fuis plutôt Dieu. Voilà, les gens qui sont dans le péché devaient dire, Dieu, je fuis parce que je ne me sens pas propre. Je me sens, bien que tout, on a des réponses à cela aussi, pour dire que Dieu est bon, il veut nous sauver. Voilà, mais après tout ce qu'on peut dire sur Dieu, refuser Dieu, c'est de la rébellion, c'est de la méchanceté.
C'est dur hein, d'avaler ça parce que, comme disons, nos familles, des gens qu'on connaît, qui, dans la chair, peuvent être super gentils, mais en réalité...
C'est des méchants.
Oui, c'est...
Parce qu'ils ne veulent pas de celui qui les a créés. Mais c'est vraiment une grande méchanceté, mais on ne sent pas ça. Hein. Comme on dit en français, qui a volé un œuf, volerait un bœuf. Hein. Mm-hmm. On commence par voler les bonbons dans le supermarché. Et puis on participe à un petit braquage. Ensuite, un braquage tourne mal, on est obligé de tuer un policier pour fuir. C'est comme ça que ça monte. Mais c'est le même jeune homme qui avait 8 ans, qu'on trouvait mignon, qui va faire ces choses-là après quand il grandit. Hitler a eu 4 ans. Je pense que quand il avait 4 ans, on devait le trouver mignon aussi. Voilà. Mais il était déjà méchant. Voilà. C'est... Parce qu'on ne peut pas comprendre que tu rejettes celui qui t'a créé, celui qui t'a tout donné. Maintenant, on est d'accord sur le fait que le péché nous gêne. Et on dit, ah, vraiment, moi je fuis Dieu parce que je me sens sale. Mais contester Dieu parce que toi tu te sens sale, ça c'est de la méchanceté. Reconnais ton problème. Ne t'amuse pas à dire que lui n'existe pas. Voilà, c'est ça qui n'est pas bon. Reconnais ton problème. Oui, trésor aussi. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup d'inconnus dans l'univers. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais disons-le, c'est vrai que ça me dépasse. Je ne comprends pas ces histoires de Dieu. Voilà, avouons le problème. Mais alors que le problème, c'est que toi, tu ne comprends pas tout, tu veux faire passer Dieu comme quelqu'un d'imparfait. Ça, ce n'est pas bon. Vaut mieux dire son vrai problème. C'est vrai que quand vous parlez de Dieu, je ne saisis pas trop. Je ne comprends pas trop. D'accord, mais commencez à échafauder des théories pour accuser Dieu. Accuser Dieu, accuser Dieu. Alors dans ce cas, ça voudrait dire que tu as tout compris. Parce que tu es capable d'accuser Dieu. Oui?
Oui, pasteur, j'ai une question. Au fait, au niveau du verset 20, quand Moïse a intercédé en faveur du peuple, et Dieu a précisé au verset 20, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplit toute la terre, tous ceux qui ont vu ma gloire et mes prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté 10 fois, tout cela ne verront point le pays que j'ai juré à leur donner. Et puis ils font tomber un jugement. Ma question, c'est la limite au fait. Et là, je vois que Dieu dit à Moïse que je leur pardonne, mais derrière, il juge encore sur le peuple. Je veux savoir un peu le limite. Est-ce que le pardon n'efface pas le jugement ou bien c'est comment?
Ah non, le jugement était qu'ils les détruisent tout de suite là. Ils les détruisent et ils commencent une nouvelle génération avec Moïse. Et Dieu n'a pas appliqué ça. Voilà. Il n'a pas appliqué ça. Il a plutôt respecté leurs paroles. Ils ont dit qu'ils étaient incapables d'aller en terre promise. Donc, je respecte votre parole, vous n'y entrerez pas. Voilà. Il a respecté leurs paroles. Vous dites que vous préférez mourir en Égypte. Mais je respecte votre parole, vous mourrez ici. Voilà. Les gens, quand ils iront en enfer, c'est leur choix. Parce que l'enfer, dans Matthieu 25, 41, c'est écrit que ça a été préparé pour le diable. Ça n'a pas été préparé pour les humains. Mais quand le diable y va, il entraîne ceux qui sont en lui. Ce n'est pas... C'est-à-dire que les gens qui iront en enfer, ils n'aiment pas la bonté. Donc si on les amenait de force au paradis, ils vont être mal. Parce qu'ils n'aiment pas la bonté, ils n'aiment pas le pardon, ils n'aiment pas l'amour, ils n'aiment pas l'humilité. Or, le ciel s'est rempli de ça. Et donc, si on les amène au ciel, en les forçant, ils vont crier. On brûle, c'est pas bon ici. Parce que c'est des méchants. Donc, ils aiment la compétition. Ils aiment les coups bas. Ils aiment la haine, la colère. Ils aiment de telles choses. C'est pourquoi ils vont en enfer. Donc, il ne faut pas croire que l'enfer, c'est vraiment Dieu, il fait ça pour se satisfaire lui-même. Non, c'est un lieu réservé au mal. Et les gens qui veulent du mal, ils iront là-bas. C'est parce qu'ils veulent du mal. Ils veulent du mal. Et prenez exemple. Moi, je connais des humains. Quand ils voient quelqu'un manifester de l'amour, de la bonté, ça les énerve. Ils n'aiment pas la bonté, ils n'aiment pas le pardon. Ça les dérange. Ça les dérange. Et ceux-là, ben, ils préfèrent l'enfer. Mais nous voyons encore toujours Dieu est bon. Dieu pardonne jusqu'au bout. Il pardonne jusqu'au bout. Et aujourd'hui encore, il peut pardonner. Jusqu'au bout, il pardonne. Mais ne contestons pas avec Dieu. C'est très dangereux. Vaut mieux dire, je ne suis pas, je ne me sens pas, voilà, je ne comprends pas trop, ou bien je fuis Dieu parce que je me sens pécheur, j'ai du mal à croire que Dieu puisse me libérer de mon péché. Nous allons t'aider en te parlant, en t'expliquant, en te donnant des versets bibliques. Mais quand tu commences à vouloir, certains, leur système, c'est de critiquer les chrétiens pour se sentir bien. Ah, t'as vu un tel frère? Oh, mais il a menti ce jour-là. Il s'est fâché au coin de la rue là-bas. Donc voilà, son boulot, c'est de critiquer les chrétiens pour se sentir bien. Ouais. Et surtout, certains, ils utilisent le mot église. Dans l'église, les gens parlent beaucoup. Mais d'accord, ces gens-là, justement, c'est parce qu'ils parlent beaucoup qu'ils sont venus chercher le salut auprès de Dieu. Toi qui parles peu, va directement par toi-même au ciel, on va voir si tu peux y arriver. Il y a des gens qui sont devenus spécialistes de critiquer les chrétiens. Parce qu'ils veulent se sentir bien. Dans l'église. Oh. Mais et toi, tu es où? C'est comme si quelqu'un passe son temps à dire, mais les humains. Mais toi, tu es qui alors? Un lion? Non. Bien-aimés, nous sommes sauvés par grâce. Passer notre temps à critiquer les chrétiens pour se sentir bien, ça nous amènera en enfer. Donc ça voudrait dire que nous, on n'est plus chrétiens. C'est pourquoi on les critique, eux. Ce n'est pas normal. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé au téléphone pour me parler du comportement de certains frères dans l'assemblée qui semblaient être peu compréhensifs, hein, peu tolérants par rapport au comportement des gens qui quittaient l'assemblée pour faire des bêtises. Et la personne telle qu'elle me parlait des gens de l'assemblée, elle me parlait avec une telle condamnation quoi, pour les gens qui se comportaient ainsi. Moi, j'ai dit, mais toi, tu es en train de condamner ces gens-là parce qu'eux, ils semblent condamner les gens qui retournent dans le monde. Mais toi, la façon dont tu les condamnes, mais toi aussi, tu fais pareil. Tu les considères comme perdus en quelque sorte. Donc, mais toi aussi, tu es dans la même dureté. Tu fais pareil. Donc, on ne se rend pas compte qu'on fait le même péché que les autres. On ne se rend pas compte parce que nos regards sont tellement fixés sur les autres qu'on ne se rend pas compte qu'on fait les mêmes péchés parce qu'on dit « Ah, mais les autres passent le temps à critiquer les autres, mais toi aussi tu passes ton temps à critiquer ceux qui critiquent. » Donc c'est la même chose. Tu devrais, toi aussi, aimer ceux qui critiquent parce que donc, en quelque sorte, toi, tu as pris une position, tu es pour ceux qui sont critiqués, tu es contre ceux qui critiquent, donc tu fais pareil. Or, réellement, si tu étais un vrai, tu devrais être amour avec tout le monde. Et avec ceux qui critiquent, et avec ceux qui sont critiqués. Mais souvent, il y a des gens qui se positionnent en saint pour dire, ah, mais certains passent leur temps à critiquer. Mais oui, mais toi, tu es saint. Tu devrais aimer ceux qui passent leur temps à critiquer et les conseiller. Et non pas en parler d'eux avec une sorte de dédain, avec une certaine condescendance, un esprit de supériorité. C'est la même chose. Donc, faisons attention. Souvent, nous péchons croyant que nous sommes parfaits. Ce n'est pas bon. Nous devons garder une attitude d'amour, de bonté, de miséricorde envers tout homme. Et ces gens-là, Dieu leur a pardonné, mais Dieu a respecté leur vœu de ne pas entrer en terre promise. Parce qu'ils avaient peur des géants. Dieu ne nous forcera pas, ça c'est pour clôturer, Dieu ne nous forcera pas notre appel. Je parle à tous ceux qui sont appelés et qui pensent que Dieu les forcera, parce qu'on a entendu des prédications où Dieu va tout faire. Oui, Dieu va tout faire, mais il ne nous forcera pas. Leur appel, c'était la terre promise. Ils ont refusé. Dieu a dit, bon, vous n'entrez pas. Je vous pardonne, mais... votre appel, vous ne le ferez pas parce que vous ne le voulez pas. Donc il ne faut pas se tromper. Il y en a qui pensent que, ah oui, je m'endors le jour, puisque je suis appelé, Dieu me réveillera toujours. Non. Il y a un moment où ça sera comme les 10 fois là qu'il vient de dire, ça fait 10 fois, là c'est bon. Il ne veut pas de son appel, il va rester comme ça, c'est tout. Donc il faut savoir que Dieu ne forcera pas. Et beaucoup fuient la gloire de Dieu parce qu'ils veulent le confort. Mais parce qu'ils sentent bien que la gloire les fait passer par la mort, par la perte. Ils veulent le confort et ils pensent que Dieu va les appeler à autre chose. Non, Dieu va te laisser à tourner en rond, à faire une chose que même les païens font. Bon, mais on est heureusement sauvés par grâce, quoi. Voilà, pour le ciel peut-être on ira, mais sur terre on n'entre pas dans notre appel. On va faire partie des chrétiens, entre guillemets, paresseux et qui, bon, peut-être qu'ils iront au ciel. Voilà, non. Il faut qu'on veuille, comme Josué et Caleb, de la gloire de Dieu et accepter le chemin par lequel ça nous fait passer. C'est ça qui est extraordinaire et beau d'être dans la gloire de Dieu. C'est d'être dans la gloire de Dieu. Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette étude biblique sur Moïse qui nous apprend encore la patience de Moïse, l'humilité de Moïse, l'altruisme de Moïse. Seigneur, merci pour la bonté de Moïse aussi, qui n'a cessé de prier pour son peuple, malgré ta condamnation. Il a prié parce qu'il aimait ce peuple. Il n'a pas condamné ce peuple. Il n'a pas condamné sa sœur. Il a prié pour qu'elle soit guérie. Aide-nous à ne pas condamner ni les bons ni les mauvais, ni les chrétiens ni les autres, que nous puissions aimer et prier pour les uns les autres. Et si nous pensons que certains chrétiens ont un mauvais comportement, bien que nous prions pour eux et que nous puissions en parler avec eux-mêmes, que nous ne prenions pas des airs de supériorité. Ô Seigneur, agis au nom de Jésus-Christ afin que nous puissions être soumis à ta parole. Que nous ne soyons pas comme ces enfants d'Israël qui n'ont pas voulu être soumis à ta parole, même s'ils en voyaient l'accomplissement. Mais lorsque quelque chose les gênait, ils mettaient ta parole de côté. Lorsque ça les arrangeait, ils prenaient ta parole. Nous ne voulons pas être comme cela. Nous voulons prendre toute ta parole. Que ce soit les parties qui nous gênent, que ce soit les parties qui nous arrangent. Merci pour toute ta sagesse que tu nous offres à travers la vie de Moïse. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.